Soft power.
Soft power. Frédéric Martel. This is why I'm hot.
Bienvenue dans le pouvoir doux, Soft Power, le magazine des industries culturelles et numériques de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, mon invité unique, est le patron d'un des principaux groupes de presse français, Pierre Louette. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous pouvez redire bonsoir, votre micro n'était pas ouvert au moment où vous l'avez dit.
Bonsoir.
Vous dirigez le groupe Les Échos, le Parisien, en région où il s'appelle d'ailleurs aujourd'hui en France. Groupe qui compte aussi Radio Classique, Connaissance des Arts ou encore le salon Vivatech. Des sites comme Investir et bientôt peut-être la société de podcast Binge Audio que vous êtes en train, dit-on, de racheter. Avec vous, nous parlerons bien sûr des Échos, du Parisien, mais également des modèles économiques en forte mutation, de la presse, de la transition numérique et des solutions aussi qui sont les vôtres, solutions innovantes, radicales et parfois mal comprises par les salariés ou les lecteurs. Vous allez fêter cette semaine les 110 ans des Échos avec un numéro spécial qui sera publié vendredi, c'est ça ?
Oui, on va fêter 110 ans d'un journal formidable et on va le fêter d'une façon assez particulière, on y reviendra certainement dans le cours de l'émission, avec une sorte de, en bon français, live magazine. Magazine vivant.
C'est-à-dire en faire un événement, en faire quelque chose qui va vivre.
Un événement vivant, parce que c'est un journal extrêmement vivant. Il a des racines profondes, il a une marque très ancienne, il a déjà beaucoup évolué, et puis il se projette dans l'avenir. Ça sera autour du thème du futur, puisqu'on a bien l'intention, dans 110 ans, d'être toujours là, en train d'informer justement les uns, les unes et les autres.
On verra ça, on sera là pour en attester. Pierre Louette, le patron des Échos et du Parisien, notre invité ce soir. Vous serez interrogé, Pierre Louette, par Emmanuel Paquet des Échos. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Et par Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis en seconde partie, à 20h, votre invité, Zoé, innovation, invité innovation, ce soir Pierre Musso.
Pierre Musso qui coécrit avec Jean-Louis Missica, l'adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme et de l'architecture, un livre qui paraît chez Taillandier qui s'appelle Des robots dans la ville et qui va poursuivre un peu la réflexion que nous avions amorcée dans une magnifique émission sur la voiture autonome. En gros, qu'est-ce que la ville de demain ? Qu'est-ce que la voiture autonome ? Et qu'est-ce que la ville peut face à la voiture autonome ? C'est des sujets assez dense et passionnant.
À 20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons du cloud en bon français. Ces millions de serveurs qui hébergent nos données, nos photos, nos musiques, sont-ils français justement ces sites ? Que veut dire pour une compagnie du cloud être français lorsqu'elle est française ? Nous passerons en revue les différents clouds, un banc d'essai en quelque sorte, pour vous permettre de comparer, le cas échéant, de choisir une offre. Et nous le ferons avec Romain Pigenel, start-upper, cofondateur de Future.io, Emmanuel Paquet de l'Express qui restera avec nous pour cette séquence. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Véronique Villa. Elle a été préparée par David Laveau, avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Elle est à la régie. Nous avons Jean-Frédéric, voilà, dans l'ordre. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter, au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission par un hommage à la soprano espagnole Montserrat Caballé, disparue ce week-end à l'âge de 85 ans. Diva de l'opéra, connue de tous, elle a tout chanté, de Rossini à Bellini en passant par Donizetti ou Mozart ou encore Dvorak. Ce qui est intéressant chez elle, au-delà de ce talent et cette voix époustouflante, c'est d'abord qu'elle a fait bouger les lignes entre la musique savante et la musique populaire. Diva et opéra queen, à la fois, elle était capable d'exceller dans les morceaux sophistiqués comme dans les grands airs d'opéra italien plus populistes. Vous savez, ce qui se résume souvent, selon un mot célèbre, aux efforts d'un baryton pour empêcher le ténor et la soprano de coucher ensemble. Son répertoire était d'abord méridional, italien, parfois espagnol ou français, mais elle a pu briller également dans la musique allemande, la subtilité de Cosi ou même Strauss, par exemple dans Salomé, dirigé par Leonard Bernstein. Enfin, autre singularité, le mélange des genres, diva et rockstar. Montserrat Caballé a chanté avec Freddie Mercury, le chanteur de Queen, et l'une de leurs chansons est même devenue l'hymne des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Elle a chanté aussi avec le musicien grec New Age Vangelis, que nous écoutons justement, ou encore avec le duo espagnol Los del Rio, le musicien de comédie musicale Nacho Cano, et même avec Johnny Hallyday. Ce dimanche et cette nuit, une veillée funéraire est organisée à Barcelone en son honneur. Ces funérailles auront lieu demain dans la métropole catalane. L'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias pour commencer cette émission à 19h08 en direct sur France Culture avec deux sujets ce soir, deux sujets liés d'ailleurs et qui concernent tous les deux l'audiovisuel. On parle dans un instant des propositions de réforme de l'audiovisuel public en France, mais juste avant l'Italie qui a un nouveau patron pour son audiovisuel public, la RAI. Il s'appelle Zoé Sfez Marcello Foa. Il est europhobe, pro-russe, anti-immigrant et anti-vaccin.
Oui, alors c'est un journaliste italo-suisse qui a 55 ans. C'est vraiment un homme de médias, donc c'est pas sa carrière qui pose problème. Il a commencé en écrivant dans différents journaux locaux en Italie, il en existe beaucoup, avant de devenir en 89 chef du service étranger du Giornale. Et il a été nommé au début des années 2010 directeur général du groupe suisse T-Media, qui édite le Corriere del Ticino, c'est un quotidien suisse italophone publié dans le canton du Tessin. Il collabore régulièrement, de plus en plus régulièrement, avec Russia Today. Et donc, il est connu pour ses positions europhobes, assez racistes, sa proximité croissante avec la Russie. Et puis, pour une certaine propension à la fake news, je vous donne simplement deux exemples. Il y a 2 ans, il avait été un peu épinglé pour avoir repris sur son blog un faux scoop. À l'époque, c'était, on accusait la BKA, la police criminelle allemande, de censure flagrante sur les attentats de l'État islamique en Allemagne. Et puis, en juin dernier, quand il y a eu cette très très pénible constitution du gouvernement en Italie, vous vous en rappelez, ça a duré des mois, et que le président italien Sergio Mattarella avait refusé de valider la nomination d'un europhobe, Paolo Savona, au poste de ministre de l'économie, il l'avait accusé d'avoir choisi la voie de l'oppression. Alors la question c'est, comment est-ce qu'il est devenu finalement le président de la RAI? Alors il faut quand même rappeler que la RAI, c'est le groupe d'audiovisuel public italien. Il y a 12 chaînes de télévision, dont 5 qui sont en clair. RAI 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 3 premières sont des généralistes et la 4e c'est plutôt des films, des séries et beaucoup de télé-réalité. Un groupe qui a, on peut clairement le dire, une qualité qui a baissé au fil des ans de manière assez drastique. Pourquoi? Parce qu'il est toujours le lieu d'enjeux politiques forts et surtout parce que il a des contenus qui ressemblent de plus en plus à ses concurrents privé. Et qui est le concurrent de la RAI? C'est là que c'est intéressant. Eh bien, c'est principalement le groupe de Berlusconi, le groupe Mediaset, avec 3 chaîne qui sont extrêmement fortes aujourd'hui, Canale 5, Rete 4 et surtout Italia 1, qui est vraiment la chaîne berlusconienne par excellence. La spécificité de cette affaire, elle est très simple, c'est Matteo Salvini, le chef du gouvernement souverainiste, qui a imposé Marcello Foa pour la RAI, sauf que le président de la RAI n'est pas nommé par le gouvernement en Italie, il est désigné par une commission parlementaire pendant 2 mois, Berlusconi, c'est ça qui est intéressant, Berlusconi, il possède Mediaset, mais il est aussi le chef d'un parti politique. Pendant plusieurs mois, ses représentants ont refusé de voter pour Marcello Foa à la présidence de la RAI. Et puis, vraisemblablement, il y a eu un accord entre Berlusconi et Salvini, qui sont quand même alliés politiques, il faut le rappeler. Visiblement, Berlusconi aurait obtenu du leader que, en tout cas, l'assurance que le gouvernement ne présente aucune loi sur les conflits d'intérêts. C'est toute la question depuis longtemps pour Berlusconi, qui pourrait mettre en danger les 3 chaînes de télévision de son groupe. Et du coup, ses représentants ont voté la semaine dernière, en tout cas il y a 10 jours, pour l'élection de Marcello Foa contre 27 voix contre.
Voilà, Marcello Foa, son portrait avec Valentina De Salvo qui coordonne la rédaction en chef du quotidien La Repubblica et que j'ai rencontré vendredi matin à la terrasse d'un café à Rome. Valentina De Salvo, très décontractée.
Je suis Valentina De Salvo, je travaille pour La Repubblica, c'est un des premiers quotidiens italiens.
Où est-ce que nous sommes ici ?
On est à Rome, dans le centre de la ville, à Monti, et près de la maison de l'ex-président de la République, Giorgio Napolitano, via dei Serpenti, Piazza Madonna dei Monti.
Il y a un nouveau président qui vient d'être nommé à la RAI. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce président ?
Ben, c'était un truc très long pour choisir cette mec-là, Foa, choisi par Salvini et Di Maio, le Movimento 5 Stelle et la Lega. Ça fait 3 mois, mais il n'avait pas la votation suffisante pour les nominer, parce qu'il avait besoin des votes de Forza Italia, de Berlusconi, pour pouvoir les nominer. Maintenant, ils ont tenu, ça fait 10 jours, puisque Salvini, il a bavardé beaucoup avec Berlusconi, pour avoir cette vote. Et ça fait que Foa, il avait travaillé aussi pour Berlusconi, parce qu'il avait travaillé pour Il Giornale, que c'est le quotidien de la famille, puisque Paolo Berlusconi, le frère de Silvio Berlusconi, c'est le propriétaire, un peu comme ça, de Le Giornale. Mais quand même, on verra qu'est-ce qui va passer, surtout sur le pouvoir entre Salvini et Berlusconi, parce que sa décision de Berlusconi de voter Foa, c'est un peu un pacte secret entre Salvini et Berlusconi, qui évidemment a une relation avec la chose plus importante pour Berlusconi, que c'est Mediaset. Foa, il était actionniste de ce journal qui s'appelle Corriere del Ticino, en Suisse. Il est beaucoup lié à Poutine et à la Russie. Il a surtout tout le temps écrit et parlé pour dire que le vrai mec de l'Europe, c'est Poutine. Et il faut voir lui pour comprendre qu'est-ce que c'est un chef d'État.
Ça veut dire en gros que le nouveau président de la RAI, qui la RAI est chargé de lutter contre les fake news, c'est l'homme des fake news.
Bon, on peut pas dire comme ça, mais en fait, on peut penser qu'ils pensent pas qu'ils sont des fake news, en fait, et parce que la Russie, il fait pas des fake news, mais quand même, il a tout le temps écrit que les modèles à voir, c'est les modèles de communication aussi de la Russie. Ça, on peut le dire.
Donc, c'est une sorte de, la RAI va devenir une sorte de Italia Today. Pour faire écho à Russia Today.
Et je ne sais pas, parce que la RAI, c'est très gouvernative tout le temps. On dit que la RAI, c'est comme le gouvernement veut, mais c'est aussi un peu conservative. Alors, il faut voir qui va gagner dans cette dynamique. Ce n'est pas très simple, parce que la RAI, c'est un des plus grands agents publics italiens, parce qu'il a 12 000 dépendants. C'est, je crois, plus de la Fiat, plus de tout. Mais beaucoup d'eux, ils sont été pris dans 40 ans d'histoire d'Italie. Il y a la Première République, la Deuxième République, la Troisième République maintenant. Et sont des stratifications qui se vont voir tout le temps comme on va orienter dans les nouveaux pouvoirs italiens.
France Culture, Soft Power. Abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
France Culture, 19h15, nous étions en Italie. On parle maintenant de la France, Emmanuel Paquette. La France où cette semaine, des propositions sur l'audiovisuel en général ont été publiées par notamment les parlementaires.
Oui, donc c'est un rapport d'Aurore Berger, la députée La République En Marche, qui en fait propose 40 recommandations. Alors on ne sait pas exactement combien de recommandations vont être suivies des faits, mais en tout cas dans ces 40 recommandations, certaines vont assez loin. Par exemple, une d'entre elles, c'est d'élargir la redevance à tous les foyers. Et en contrepartie de ça, puisque ça ferait rentrer 100 millions d'euros supplémentaires en termes de recettes, allouer ces recettes à Radio France d'une part, donc supprimer totalement la publicité sur les ondes de Radio France compensée par cette redevance, et également sur France 5. Donc ça, c'est un des points, une des recommandations du rapport. Il y en a d'autres aussi, hein, comme la possibilité pour les chaînes de télévision de réaliser des tests de publicité géolocalisée. C'est un système aujourd'hui qui est courant sur Internet. YouTube ou Google, Facebook peuvent le faire. Mais aujourd'hui, ça pourrait être étendu à la TNT, la télévision numérique terrestre, en permettant de géolocaliser en fait le spectateur et en lui adressant un message publicitaire ciblé en fonction de la zone dans laquelle il habite, par exemple avec des soldes près de chez lui ou des bonnes affaires à faire dans certaines régions, dans certaines villes. C'est notamment BFM Paris et le groupe Next Radio qui a beaucoup poussé pour ce type d'essai, de test. Donc on va voir si ça aussi, ça va être suivi des faits. Et puis surtout, une des grandes mesures, ça serait une fusion entre l'ADOPI, donc la Haute Autorité chargée de la lutte contre le piratage, avec le CSA, donc le gendarme de l'audiovisuel. C'est un serpent de mer, ce rapprochement entre plusieurs autorités de régulation. À un moment donné, on a pensé que l'ARCEP, l'Autorité de régulation des télécoms, aller fusionner avec la DOPI. Maintenant, on parle du CSA, mais tout ça se ferait avec un autre mouvement de fond qui est un élargissement des pouvoirs de la DOPI, notamment sur le streaming, donc sur le visionnage en ligne de films, puisqu'aujourd'hui, la DOPI ne peut simplement envoyer des courriers recommandés et surtout, après, éventuellement, mettre saisir des amendes, ouais. Voilà, avec un juge, pour des gens qui font du téléchargement via des systèmes, ce qu'on appelle de peer-to-peer, donc de pair à pair. Mais beaucoup de choses lui échappent, c'est-à-dire le streaming d'une part et puis le téléchargement direct d'autre part. Donc ce sont potentiellement deux systèmes qui pourraient être élargis à l'ADOPI.
Zoé 16.
Bah effectivement, il y a effectivement cette intégration. On a beaucoup parlé quand on a fait notre émission sur ADOPI d'avoir un dispositif spécifique qui permettrait de bloquer les sites de streaming. Et puis surtout, ce qu'on appelle un pouvoir de transaction pénale, c'est-à-dire effectivement permettre à la DOPI de pouvoir envoyer carrément des amendes, ce qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui. Bon, en fait, sur ces 40 propositions, il y a effectivement des propositions qui vont loin, comme celle de la redevance. D'ailleurs, Aurore Berger revendique son statut de parlementaire libre, parce qu'on sait, a priori, on sait que Nissen s'était déclarée favorable au début du mandat d'Emmanuel Macron, puis qu'elle avait été recadrée sur Matignon, sur cette histoire de redevance. Clairement, visiblement, en tout cas pour le moment, le gouvernement n'est pas prêt à faire passer cette mesure, qui est quand même une mesure, disons, un peu impopulaire, qui aurait aussi, c'est ce que dit Aurore Berger, pour vertu aussi de redéployer un petit peu des recettes publicitaires, parce qu'on sait qu'on a des gros problèmes d'annonceurs en France, on a un marché qui stagne, et alors que les acteurs se multiplient. Quant aux propositions pour ADOPI, sur ADOPI, effectivement, c'est des propositions voilà qui vont dans le sens de ce que déjà beaucoup de rapports avaient préconisé, et ça depuis très longtemps. Donc c'est un petit peu la question, à la fois elle va loin, et à la fois il n'y a vraiment rien de potentiellement explosif et tout à fait novateur dans ce rapport. Et on n'a évidemment absolument aucune certitude quant au fait que ces propositions seront retenues ou pas par le gouvernement.
Surtout au moment même où on parle d'un remaniement qui pourrait ou pas affecter la ministre de la culture. Et les rapports, effectivement, sont nombreux à s'être un peu, comment dire, accumulés dans les placards. Une réaction peut-être Pierre Louette, vous êtes PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, mais dans d'autres vies, vous vous êtes intéressé à l'audiovisuel?
Oui, moi j'essaie surtout aujourd'hui de m'occuper des questions de mon groupe de médias, hein, donc je n'ai pas d'autorité pour parler de ces sujets-là, mais ce que je retiens vraiment, c'est que on a besoin d'un audiovisuel public fort et d'un privé fort, on a besoin des deux. Quand l'un des deux se porte mal, dans chacun des pays où il n'y a plus d'audiovisuel public ou pas de privé, c'est pas terrible. Donc on a besoin de cet équilibre-là.
L'Italie ou le monde d'ailleurs, c'est vrai.
Voilà, l'Italie peut-être l'indiquer. Et Valentina, elle nous a confirmé ce que l'émission précédente disait, c'est que la créativité verbale et linguistique doit être au sommet et que la langue appartient à ceux qui la parlent. Et c'était assez intéressant de voir comment elle prolongeait le thème précédent.
Juste peut-être une petite question. Est-ce que le test de publicité géolocalisée, ça peut pas porter atteinte à l'un des deux titres, en l'occurrence Le Parisien, qui vit d'annonceurs qui sont de temps en temps justement géographiquement très proches de certaines éditions du Parisien.
La pub géolocalisée et l'ouverture de ce qu'on appelait les secteurs interdits, c'est vrai que c'est pas bon du tout pour la presse, donc on n'est pas pour.
Notamment la presse quotidienne dont vous êtes un des représentants, y compris comment dire, en région, à travers, aujourd'hui la France. Qui est très présent en province. Dans un instant, je reçois donc Pierre Louette, le PDG du groupe Les Échos et Le Parisien, déjà dans le studio. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, on écoute Larry Norman, Up on This Rock. Il est considéré comme le père fondateur, l'un des pères fondateurs du Christian Rock. Écoutez bien les paroles. You can take away my kids, take away my wife, take away my job, you can take away my life. You can take away my house, take away my board, but you can't take away the Lord. Now listen, Satan, you just can't take away the church or the Bible book unless you want to waste your time. You better take a second look, 'cause you can't take away my shield, can't take away my sword, and you can't take away the Lord. Well, he made me. Alors longtemps, il y a eu une sorte de laïcité dans le rock américain. D'une part, il y avait le gospel, celui des églises, noires majoritairement, et d'autre part, le rock, séparation stricte de l'église et de la musique. Depuis les années 70, un nouveau genre, baptisé de oxymore, est pourtant devenu grand public, le Christian rock. Martin Luther King, à l'époque, voyait dans l'expression Christian rock une totale incompatibilité de mots, le rock païen et profane pouvant être associé avec la musique de Dieu, mais le succès ne s'est pas démenti contre toute attente. Dans un livre paru récemment, l'historien Randall Stephens retrace la saga inattendue de cette musique chrétienne. Son livre « The Devil's Music », la musique du diable, révèle le fonctionnement de cette industrie, sa puissance qu'il ne faut ni sous-estimer ni d'ailleurs surévaluer, ses talents peu connus en Europe mais célèbres à domicile. Des studios spécialisés, notamment à Nashville dans le Tennessee, produisent des albums de platine et d'or, et d'innombrables stars du Christian rock font aujourd'hui l'actualité de ce genre qui trompe énormément. The Devil's Music de Randall Stephens est publié par Harvard University Press.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Pierre Louette, patron des Échos et du Parisien aussi d'aujourd'hui la France, est mon invité ce soir, aujourd'hui en France. Les Échos fêtent leur 110e anniversaire cette semaine, raison notamment de notre invitation ce soir, et un numéro spécial sera publié à cette occasion vendredi. On va parler des Échos, du Parisien, des sites web que vous avez créés ou rachetés, des salons et des conférences que vous organisez. Mais juste avant, un mot Pierre Louette peut-être sur votre parcours. On vous a vu et déjà reçu d'ailleurs dans cette émission lorsque vous étiez à la tête de Orange ou PDG de l'AFP. Vous avez fait Sciences Po, Elena, vous êtes membre de la Cour des comptes. En gros, le typique grand, beau, grand, haut fonctionnaire français. Pourquoi avoir choisi les médias ?
Alors d'abord, j'adore le portrait grand, beau et haut. Bon, c'est, franchement, c'est pas tous les jours qu'on me le dit, donc c'est pas mal.
Chevelu aussi, mais c'était...
Alors, chevelu, là, ça serait vraiment une fake news. Beaucoup de gens qui connaissent le savent. Aussi, petite correction, j'étais pas à la tête d'Orange, c'est Stéphane Richard qui est le patron
d'Orange. Vous étiez directeur général, ouais.
Et il fait ça très bien depuis quelques années déjà, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui et l'aider. Mais effectivement, j'étais PDG de l'AFP, et c'était comme ça qu'on s'était vu. Alors, le parcours, en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai une passion pour les médias, c'est vrai, depuis très longtemps. Je me souviens avoir commencé aussi vite que j'ai pu à lire des journaux, le Télégramme de Brest en Bretagne, La Voix du Nord dans le Nord, et puis les journaux nationaux que mon père rapportait. Et m'être abonné aussi à plein de journaux anglais, parce que j'étudiais pas mal l'anglais, The Economist, Time, bon. Voilà, et donc ça a toujours été pour moi une
passion.
Et
qu'est-ce qui vous excite finalement dans la presse, si on
peut dire ? L'information. C'est l'information et en fait plutôt cette économie de l'information. Qui est en train de nous raconter le monde ? Qui est en train de produire ce que j'appelle moi des repères, des balises et des commentaires sur le monde? Qui le fait? Comment ça se fait? On va en parler, c'est de plus en plus difficile de le faire. L'économie des médias n'est pas au sommet, hein. On sait bien que c'est très difficile, et notamment pour la presse écrite. Mais cette activité économique-là m'a toujours passionné.
Votre groupe appartient au milliardaire Bernard Arnault, patron de LVMH, groupe français. Quelle est, selon vous, sa vision des médias et pourquoi est-il lui aussi, finalement, dans cette galère des médias ?
Alors, le groupe appartient au groupe LVMH, donc c'est pas qu'une galère, quand même. Il y a des difficultés financières qu'on espère passagères, mais enfin, on y travaille tous les jours. C'est un groupe LVMH qui a le goût des très belles marques et de ce qu'il appelle les maisons. Et en fait, dans l'ensemble de ces marques et ces maisons, il a plusieurs marques et maisons.
Donc il a Vuitton et puis il a les Échos.
Alors, il y en a un qui est un peu plus rentable que l'autre. Si vous voulez me faire dire, voilà, c'est fait, je l'ai dit, mais je pense que M. Arnaud sait.
Une information qui est exclusive. Louis Vuitton rapporte plus que les Échos.
Quand je peux vous apprendre quelque chose, je suis toujours content. Vraiment, c'est vraiment une joie. Mais il le sait, M. Arnaud, évidemment, ça lui a pas totalement échappé. Et il s'attend pas forcément non plus dans les médias à trouver la même rentabilité. Mais c'est pas le sujet. Pour lui, encore une fois, la mission qu'il me donne, en fait, qu'il m'a donnée, c'est clairement ces marques, il faut les préserver, les développer, les faire encore plus belles et encore plus grandes. Voilà. Donc c'est une vision qu'il a et que je partage totalement.
Crise des médias, c'est une crise selon vous de modèle économique, une crise de contenu, ça veut dire donc de pertinence et de qualité, une crise de mutation technologique ou bien les trois crises à la fois?
Mais je crois qu'on peut dire qu'on a les trois à la fois. Hein. C'est vraiment la crise globale. Alors c'est une formule que j'aime bien employer. Je crois que c'est Jean-Michel Baillet, le président de l'Alliance des journaux en France, qui l'a eu. Mais on est vraiment dans ce passage de Gutenberg à Zuckerberg. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'intégralité.
Le patron de Facebook. Ouais.
Voilà, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On a vraiment l'intégralité de cette transformation à opérer. Alors, ça a déjà commencé. Par exemple, dans le cas des Échos, les premiers sites Internet, c'est 96-97, donc ça remonte déjà à pas mal d'années. La diversification dont on reparlera, c'est 92 qu'elle commence aux Échos. Au Parisien, c'est plus tardif, c'est un des problèmes du Parisien. Mais on doit se transformer et on doit en permanence gérer ce passage des modes de consommation en fait de nos lecteurs qui de moins en moins achètent des journaux papier, de plus en plus passent du temps online, de plus en plus à travers leur smartphone. Et on doit les retrouver là et retrouver aussi des revenus online que l'on perd en papier. C'est ça la grande transition, c'est ça le travail qu'on fait au quotidien.
Sur le papier, il y a évidemment la défaillance aussi du réseau des distributeurs, pour en parler un instant. Les lourdeurs historiques de cette filière, comment vous voyez les solutions quand il n'y a souvent pas de kiosque ouvert? Par exemple, ce matin, je suis parti, c'est un exemple, mais le kiosque n'était pas encore ouvert. Donc, comment acheter les journaux? On se retrouve à la maison de la radio sans journaux. Et on est à Paris, on est dans des... Donc, ça veut dire que la distribution est problématique dans beaucoup d'endroits, le dimanche certes, mais aussi en semaine.
Je sais, moi je ne veux pas du tout accabler telle ou telle partie de la chaîne de valeur, mais c'est vrai que ça démarre par l'imprimerie où on est dans une industrie lourde avec des énormes bobines de papier, des ouvriers,
avec des syndicats très puissants.
Oui, mais bon, mais surtout c'est une production industrielle, quoi. Donc on a cette production-là au début de la nuit. Après on a plein de camions qui vont apporter des tonnes de papier un peu partout. On sait que de ces tonnes de papier, la moitié sera renvoyée pour être détruite. Donc on est quand même dans un processus de destruction. Je ne sais pas s'il est créatif, mais en tout cas destruction de valeur qui est constant. Et puis on a ces fameux points de vente. Il y en a de plus en plus qu'on essaie d'ouvrir dans les réseaux de grande distribution, mais enfin les points de vente, il en a encore fermé 850-900 l'an dernier. Donc c'est un vrai problème, comme vous disiez Frédéric, c'est pas facile partout toujours de trouver le journal papier. Donc ça c'est un problème industriel auquel on a à faire face. Ça passe peut-être par la réforme de la loi Bichet, c'est un des projets du gouvernement et on a contribué à enrichir ce projet, à réfléchir aussi avec le gouvernement à ce qui pourrait être fait. On doit travailler sur toute cette chaîne de valeur pour qu'au moins acheter un journal papier, ça soit pas un exploit, ça soit pas quelque chose de difficile, que ça soit un peu plus facile que ça ne l'est aujourd'hui. Évidemment, on y travaille beaucoup. La distribution, pour prendre un chiffre qui est intéressant, pour un journal comme Le Parisien, qui est vraiment le journal du papier. C'est le plus grand quotidien national du pays, Le Parisien, aujourd'hui en France, national. Il y a Ouest France et puis il y a L'Équipe dans son genre, mais le plus grand quotidien national généraliste, c'est Le Parisien aujourd'hui. 300 000 exemplaires, plus de 300 000 exemplaires par jour. Eh bien, la distribution, c'est 37% de nos dépenses. C'est-à-dire qu'on paie un prix fou, comme dirait quelqu'un, à se faire distribuer. C'est extrêmement lourd. Et alors même qu'on lutte ou qu'on est également en coopétition avec des gens qui sont totalement numérisés. C'est-à-dire des gens qui, eux, vont avoir une chaîne de valeur entre des bits contre des bits. Nous, on est vraiment dans les atomes assez lourds, et en plus, on a du mal à vendre aussi cher qu'on le voudrait ces produits de presse qui ont une valeur énorme à nos yeux et aux yeux de toutes les femmes et les hommes des rédactions et des fonctions support qui les font, mais qu'on n'arrive pas à vendre beaucoup plus cher aujourd'hui.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Oui, alors on voit que tous les groupes de médias essayent justement de se diversifier, notamment avec des salons. C'est votre cas, par exemple. Il y a un grand salon maintenant, Vivatech, qui a lieu à Paris tous les ans, qui est un salon des nouvelles technologies. Il y a les formations, les conférences, les Échos en font notamment. Il y a même des concerts maintenant depuis peu, puisque le Parisien a lancé Paradis. C'était la première édition il y a...
On n'a pas parlé des talents de chanteur de Pierre Louette. Exactement. Dans l'introduction à la biographie
Mais
initiale.
Mais est-ce que ça veut dire que globalement, les Échos ou le Parisien ont vocation à perdre de l'argent et que tout ce qui est conférences, formations, tout ce qui est annexe sont des centres de profit qui doivent permettre de rendre ces titres rentables?
Alors, ce système-là, c'est un système qu'on voit dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a vraiment souvent le journal qui vient du papier, mais qui est largement online. Les Échos, aujourd'hui, ils ont plus d'abonnés en ligne que d'abonnés papier. Donc, cette conversion du papier vers le en ligne, elle s'opère, elle s'est déjà opérée. Donc, on voit beaucoup de modèles comme ça avec le journal principal et puis plein d'activités autour, des pétales, je dirais, des activités complémentaires. Elles font toutes fond sur la marque, la qualité de la marque. C'est là où on en revient, encore une fois, à l'essentiel qui est la production par une rédaction.
Donc il faut qu'il y ait une logique.
Il faut qu'il y ait une logique. D'abord, il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait toujours une rédaction capable, et c'est ce qu'on essaie de faire en lui donnant les moyens de le faire, hein, même si l'univers est un peu difficile, mais capable de produire un ensemble d'informations de qualité, d'informations originales, de commentaires de qualité. Et à partir de là, on a cette légitimité de la marque qui permet de faire d'autres événements. Alors, vous avez parlé, Emmanuel, des salons. On a réussi, autour des Échos, à créer Vivatech, qui est entré en 3 ans dans le top 3 des événements mondiaux autour de la tech. Donc, c'est quand même pas mal. On est parti, et mes prédécesseurs, en fait, sont parti avec le groupe Publicis de rien. Ça a été créé. Aujourd'hui, c'est un salon qui fait référence. De façon plus générale, si on décrivait une sorte de macro-tendance, on est passé d'une économie du produit à une économie de l'expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose. De la même façon qu'on passe d'une économie du produit à une économie de la plateforme. On y reviendra peut-être.
D'où l'importance de la marque qui reste ce qui guide finalement les...
L'expérience, c'est ça. L'expérience, c'est pouvoir être en relation avec la marque, y compris quand on n'est pas en train de lire le journal en papier ou sur un smartphone. Donc, on est dans un salon de l'entrepreneur aussi, fait par les Échos, ou Paris Paradis que le Parisien a lancé, et on est quand même en relation avec cette marque. On a envie d'y aller parce qu'on se dit, je suis quand même dans l'univers et je vis la marque. Le succès des live magazines, c'est également ça. On est en train d'écrire ou de voir comment s'écrit un journal ou un magazine. On est dans cette forme d'expérience-là. Et d'ailleurs aussi, de plus en plus souvent, on a envie de passer l'expérience personnalisée à une expérience personnelle. On a envie de vivre personnellement ce qui se passe.
Zoé Sfez.
Bah justement, évidemment, je pense qu'on va bien sûr y revenir. Live Magazine, c'est un format d'ailleurs que vous avez emprunté à des gens qui l'avaient déjà fait, qui d'ailleurs se disaient que c'est de la radio. Absolument. Sur scène. Donc c'est déjà du live de radio qu'aujourd'hui vous utilisez, vous, marque de presse écrite. Évidemment, le Parisien qui venait du groupe Amaury a rejoint le groupe Les Échos. Il y a évidemment Radio Classique qui est une radio dans votre groupe. Et il y a cette histoire de Binge Audio, donc ce nouveau studio de podcast. On sait d'ailleurs qu'ils produisent déjà, je crois, un journal quotidien à partir du Parisien. Comment est-ce que vous voyez justement, je vais le dire autrement, on sait que la presse écrite ne peut plus exister sur le papier, elle doit exister sur Internet. Est-ce que à terme, elle doit exister aussi nécessairement par la voix?
Oui, ce que l'on voit vraiment très clairement aujourd'hui, c'est que, et c'est le cas aussi aux Parisiens, c'est le cas aux Échos depuis un moment, on écrit en première intention pour Internet parce que c'est actualisé en permanence. On sait aussi qu'on est en train de fabriquer un journal qui, lui, sera livré, on a vu dans quelles conditions parfois difficiles, mais livré et acheté une fois par jour. Et puis, on peut se dire également qu'une partie de ce que l'on écrit sera transformée en podcast et en système autour de la boîte.
Comme s'il y avait un contenu, ce qu'on appelle en anglais un content, c'est pas exactement le même mot. Et ce content, après, vous pouvez le décliner sous différentes formes, l'utiliser dès lors que vous en avez le copyright.
Exactement. Ce qui est essentiel, c'est les rich contents, les contenus importants, les contenus de qualité, les contenus qui donnent des références. Et encore une fois, quel que soit le support sur lequel ils se déploient ensuite, on va chercher à ce qu'ils trouvent leur public.
Ça veut dire des formats longs aussi?
Alors moi, je suis un grand adepte des formats longs. Je
lis des New Yorker, etc.
Dans New Yorker, évidemment, particulièrement. Mais aussi dans d'autres journaux ou magazines journaux qui ont développé ou relancé ce format-là. C'est vraiment extrêmement important parce qu'on retrouve aussi le goût et le plaisir de la lecture longue. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs de plus en plus, mais c'est le cas sur Medium aussi, comme parmi les supports online que je fréquente beaucoup, on vous dit, vous en avez pour 17 minutes, vous en avez pour 22 minutes. Donc on embarque, et c'est fantastique d'embarquer dans une lecture un peu plus longue et de sortir de cette espèce de journée découpée. Et quand on est dans le métier un peu bombardé par l'information en permanence, des petits snippets, des tout petits morceaux d'information, et là on passe au format long. Donc format long, investigation, enquête, podcast, multi-support, tous les supports. On doit trouver toutes les façons d'être en relation avec le public, de lui proposer quelque chose qui l'attend ou quelque chose qui n'attend pas aussi. Moi je suis aussi de ceux qui pensent qu'on est dans cette économie-là. On propose des choses que les gens n'ont pas encore totalement demandé. C'est une chose que Le Parisien, par exemple, fait formidablement tous les jours. Il prend le pouls du pays et le titre du Parisien, vous le retrouvez souvent dans l'entrée des journaux radio du matin ou des journaux télé du soir. C'est comme ça, c'est ce qui se passe ce jour-là dans le pays. Hier encore, il y avait un exemple formidable que seul Le Parisien peut faire vraiment, c'est-à-dire un supplément sur le manger local en Ile-de-France, avec plein de produits fantastiques, dont j'ignorais tout d'ailleurs, pour dire la chose, du jambon, des bières parisiennes. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, que les gens attendent sans le savoir, mais on leur propose et ils vont l'apprécier.
Emmanuel Paquette.
Alors, je crois que vous avez annoncé une nouvelle organisation du groupe, avec un pôle Les Échos rédaction, un pôle Les Échos parisiens, un pôle rédaction parisien, et un troisième pôle dans lequel il y a toute la diversification, la régie publicitaire. Alors, j'ai discuté avec certains syndicalistes, certains me disent deux structures qui perdent de l'argent, Les Échos, Le Parisien, et une troisième qui est censée être générer tout ce qui va être facteur de bénéfice. Visiblement, ça crée beaucoup d'inquiétudes au sein des deux rédactions. Il y a eu une assemblée générale aux Échos jeudi, il y a une assemblée générale aux Parisiens lundi. Alors certains me disent on n'a pas de visibilité sur pourquoi ces trois entités. D'autres me disent ça déstabilise un peu les gens, puisque en gros ça veut dire que de fait les Échos, la division Les Échos et la division Le Parisien seront structurellement en perte. Et la troisième division sera, elle, structurellement bénéficiaire. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'interrogations sur cette nouvelle organisation.
Alors, il y a beaucoup d'interrogations, ça c'est tout à fait évident, d'autant plus qu'on a à peine commencé à l'expliquer.
D'accord.
Ce qui se passe, c'est ça, bon, ça arrive parfois aussi, mais on a commencé et on a rencontré déjà 3 ou 4 fois les représentants du personnel pour leur parler de ce projet. Ça n'a pas suscité d'étonnement particulier au départ. Et là, maintenant, évidemment, on arrive dans les phases un peu plus compliquées, où il va y avoir des transferts de personnel, il y a des transferts, des changements d'unités économiques et sociales. Donc, voilà.
Parce que pour bien comprendre tout ce dont vous avez parlé, s'il faut faire des podcasts, s'il faut faire aussi de l'image, s'il faut faire des formats longs, etc., ça a des conséquences très graves pour les journalistes et les salariés. C'est normal qu'ils soient inquiets et peut-être même un peu paniqués parfois.
Alors, ils sont ni inquiets, ni gravement inquiets, ni paniqués surtout. Je sens, il y a toujours une sorte de solidarité dans l'excès, en fait, et dans la recherche de quelque chose qui est excessivement inquiet. Mais soyez pas inquiets, Frédéric, en tout cas. Cette maison, elle aussi est habituée à gérer plein d'antennes qui gagnent, qui perdent, hein, selon les années. Elles perdent plus souvent qu'elles gagnent, je crois, depuis des années. Mais, enfin bon. Donc, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui. C'est de bien faire passer ce message qu'il y a effectivement un nouveau groupe. Ce groupe n'existait pas. On est en train de chercher à faire groupe. Hein, l'expression apparaît un peu sociologique à l'ancienne. On cherche à faire groupe. Avant, il y avait Les Échos, avec leur diversification commencée en 92, et c'est vrai que l'ensemble était à peu près à l'équilibre. Le Parisien est arrivé. Le Parisien est frappé massivement par la décroissance du papier. On parle quand même d'une année à l'autre, de 17, 18%, 19% pour nos concurrents de baisse. C'est moins pour aujourd'hui en France, le Parisien, c'est 14%. Enfin, c'est quand même très important, 15% de baisse de la pub. Donc, il y a des phénomènes comme ça importants. Donc, on se dit, on va renforcer cette capacité à avoir des moteurs auxiliaires, des moteurs de croissance qu'on met en commun pour les deux titres. Quelle serait la raison aussi de dire, on va laisser les Échos avec ses petits moteurs auxiliaires d'un côté, on va laisser le Parisien dans sa grande difficulté. Quelle serait l'inquiétude des journalistes du Parisien si on faisait ça? Donc, je ne veux pas faire ça. Je mets au milieu tous les moteurs. On va créer des salons et des diversifications pour le Parisien. On va appliquer l'excellente recette des Échos. Mais on sera également, juste pour le dire d'un mot, Frédéric, on sera très attentif, évidemment, à ce que la rédaction, et pas que la rédaction, ait les moyens de travailler. Il n'y aura pas de mesures coercitives ultra-violentes, parce que je suis totalement de ceux qui pensent qu'on a besoin d'avoir un produit de qualité, parce que ça marche déjà pas tellement bien comme ça. Alors si en plus on n'a pas un produit de qualité, ça va pas marcher mieux.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h38 en direct sur France Culture, Soft Power jusqu'à 20h30. Mon invité Pierre Louette. Pierre Louette, très rassuré, très serein ce soir, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien. Une question d'Emmanuel Paquette de l'Express.
Alors, on a pu lire dans la presse spécialisée, dans la lettre A, que Le Parisien avait fait quasiment 24 millions de pertes sur l'année 2017, Les Échos 6,6 millions de pertes. Alors, dans le groupe des Échos, on a oublié de préciser quand même qu'il y a Investir, Radio Classique, ouais, Connaissance des Arts, qui sont aussi des rédactions à part entière. Donc, et de savoir, avec toutes ces pertes, c'est vrai qu'il y a une autre crainte qui est celle de, est-ce qu'il va y avoir un contrôle budgétaire plus important sur les deux titres, essentiellement Le Parisien, mais probablement aussi Les Échos, et avec des réductions de coûts, puisque là, de ce que j'ai cru comprendre, pareil, en interrogeant quelques personnes, il y a certains départs qui ne sont pas remplacés, il y a des interrogations sur des postes de correspondants, puisque Les Échos ont encore beaucoup de correspondants à l'étranger. Le Monde lui-même vient de supprimer 2 postes de correspondants à l'étranger en Inde et au Brésil. Donc, est-ce qu'il risque d'y avoir un tour de vis aux Parisiens et aux Échos sur l'année 2018?
D'accord, alors j'en profite pour effectivement refaire juste
les chiffres de lettre A qui sont discutables.
Non, ça, on va en parler, ils sont plus que discutables, mais on va en discuter. Mais pour refaire simplement ce panorama complet, et merci Emmanuel de l'avoir dit, il y a Les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France, investir. Il y a aussi Connaissance des Arts, qui est une magnifique revue qui marche très bien. Radio Classique, Capital Finance. Et il n'y a pas Binge. Et
là, pas encore, oui. Non, vous êtes en négociation, en tout cas.
Alors, c'est pas une fake news, mais ça fait partie des choses qui rendent le dialogue parfois compliqué. C'est que, non, on l'a pas encore acheté. On est en train de parler activement avec eux, mais ça n'est pas dans le groupe. Donc, il faut pas aller.
Ça a été annoncé dans au moins 3 ou 4 quotidiens. C'est
mais
pour
voilà,
ça
moi,
qu'on
je
le cite.
Je ne maîtrise pas ce qui peut être annoncé par tel ou tel, hein.
Mais vous collaborez déjà avec eux.
Vous n'avez pas entendu l'annoncer. Vous m'attendez une fois plus. Vous m'entendez dire que ça n'est pas fait. J'espère très très fortement que ça va se faire. C'est bien parti, mais c'est pas fait. Alors ensuite, sur les chiffres. Les chiffres qui ont été publiés, évidemment, ils mériteraient mille et mille explications que j'ai pas véritablement à donner, puisque c'est pas un groupe
coté, donc vous êtes
indirectement, via le LVMH.
Mais tu vois, beaucoup de gens ne donnent aucun chiffre sur eux. On est dans une profession dans laquelle tout le monde dit que ça va extrêmement bien, jusqu'au jour où ça va moins bien, et les gens réalisent qu'en fait,
confirme
ça n'allait pas
le
si
journal,
bien que ça.
Oui, bon. C'est...
Voilà, donc moi, simplement, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a eu des montants très importants de pertes aux Parisiens l'an dernier, parce qu'il y a eu aussi plusieurs plans de départ et qu'on a donc beaucoup de ce qu'on appelle charges exceptionnelles qui s'ajoutent à effectivement une difficulté d'exploitation normale. Voilà. Donc le Parisien aujourd'hui en France, il a géré beaucoup de ses plans de départ. Il avait auparavant un actionnaire qui faisait vivre son journal dans un groupe plus large et c'était parfaitement légitime de son point de vue, aucune espèce de remarque à faire là-dessus, avec ASO qui est une activité de diversification, si on veut, une des plus anciennes.
C'est le Tour de France.
Et beaucoup de revenus est très profitable. Et l'équipe qui, selon les années, hein, sportive ou pas, faisait partie du groupe et contribuait à son équilibre général. Il n'y a pas eu de développement et de diversification menée pour le Parisien depuis 20 ans. En gros, quand je dis que les échos ont commencé en 92, le Parisien va commencer maintenant. Et moi, j'y suis extrêmement attaché. On va essayer de donner aux Parisiens aujourd'hui tous les prolongements qui sont parfaitement légitimes pour lui et qui vont contribuer à cet équilibre. Et puis, du côté des échos, c'est vrai qu'il y avait toujours un système de compensation entre des activités comme les annonces légales, mais que le Parisien fait aussi. C'est pour ça qu'on peut les mettre ensemble. Les salons que le Parisien peut faire. C'est pour ça qu'on peut les mettre ensemble. Et d'autres activités comme le publishing qui étaient de nature à compenser les pertes en fait du journal. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. J'espère que j'en dis pas trop par rapport à certains de mes concurrents, mais je dis simplement les choses et je dis les choses exactement comme ça aux salariés. Je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer que j'aurais caché quoi que ce soit. Et s'agissant juste pour finir, je suis trop long dans ma réponse, pardon, mais parce que c'est important d'essayer d'être méthodique pour finir sur la question des économies. Oui. Question posée, réponse claire. Oui, on est en train de mener, c'est plutôt au sommet du groupe hein, pour l'instant, des mesures d'économie sur les taxis. On n'aura pas les mêmes difficultés que d'autres sur cette question des taxis. Il n'y en aura plus ou quasiment plus. Oui, on va dépenser moins pour les réceptions. On est en train de couper un peu partout où on peut, ce qui est entre guillemets le plus facile, c'est pas si facile, mais enfin ce qui est sous notre main. Et sachant que, je l'ai dit, je n'ai aucune intention d'avoir des rédactions affaiblies et moins de correspondants à l'étranger pour les échos non plus, parce que ça serait pas une bonne façon de préparer le super produit de demain qui trouvera tous ses canaux de distribution et tous ses revenus.
Vous avez parlé des économies. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Deux exemples. Comment est-ce qu'on monétise d'une part un journal d'intérêt général comme Le Parisien, d'autre part la question de la régulation des GAFA?
Alors deux questions extrêmement fortes qui sont mêlées. Alors gagner de l'argent, encore une fois, c'est gagner de l'argent à partir. On peut gagner de l'argent dans les journaux. Un journal comme Télérama gagne beaucoup d'argent. Quand on a
Le Financial Times, The Economist, le New York Times.
Et c'est très important d'avoir un contrat de lecture. Alors pardon, mais vous ouvrez plein de tiroirs à la fois. C'est encore plus facile un petit peu quand on est anglo-saxon. Quand on a comme le Guardian ou le New York Times, 50% de son lectorat hors de son pays d'origine, parce que l'anglais, quoi qu'on en ait dit dans l'émission précédente, est un peu plus répandu que le français. Eh bien, ça permet de gagner plus d'argent plus vite. Donc voilà. Mais ça, encore une fois,
juste sur ce point, ne pas aller vers le Québec. Pourquoi pas la francophonie? Pourquoi pas, je sais pas, une édition en arabe, en espagnol?
On peut tout à fait regarder. Je sais qu'on l'a regardé notamment pour les échos. Mais enfin, encore une fois, aujourd'hui, on essaie de se concentrer déjà sur la façon dont on pérennise et dont on développe des journaux qui ont un contrat de lecture plutôt français aujourd'hui.
Donc monétiser l'information locale, Le Parisien?
Alors, monétiser l'information en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord continuer pour celui qui est très très papier à vendre des exemplaires papier. Donc on investit et on est le seul journal, en fait, Le Parisien, qui l'an dernier a vu son nombre d'abonnés papier augmenter. Bon, alors c'est papier, mais il a augmenté. Et puis on développe un journal de plus en plus numérique. Donc on est en train de mettre en œuvre le système de publication que le Washington Post a développé, qui s'appelle ARC. On va le mettre en œuvre. Il permettra d'avoir plus de pages vues par session et d'avoir une monétisation renforcée.
Au fond, c'est ça, c'est un modèle économique, au moins pour le Washington Post, puisque je crois qu'ils ont revendu à quoi, 200 journaux.
200. Il y a 200 apparemment éditeurs qui sont clients, et c'est une sorte de division. Mais de la même façon que pour Amazon, ce qui marche le mieux, c'est quand même le cloud, dont on dira un mot tout à l'heure, beaucoup plus encore que la vente de biens comme ils le font depuis 20 ans. Donc on monétise et on va monétiser en ligne, on développe le nombre d'abonnés en ligne, les Échos a plus d'abonnés en ligne que d'abonnés papier maintenant. On va aussi limiter le nombre d'articles vus gracieusement, on fait effectivement des paywalls. Tout ça pour restituer ou renforcer la notion de valeur. C'est-à-dire que ce qui est gratuit, il y a eu toute cette économie de la gratuité, c'était extrêmement compliqué de dire à la fois c'est gratuit, vous l'achetez en papier mais vous ne l'achetez pas online, et pourtant ça a beaucoup de valeur. Et puis on va développer, encore développer, toutes ces activités auxiliaires. On a dit un mot, merci tout à l'heure, de Vivatech. C'est une formidable réussite. C'est à l'équilibre et même ça gagne pas mal d'argent. C'est très bien parce que ça prend une place très importante. Les salons gagnent de l'argent, les annonces les gars gagnent de
Média
l'argent.
Média en scène avec France Info qui aura lieu le 22 novembre.
Merci, j'aurais pas osé le mentionner.
Eh bien voilà, on l'a fait
parce
pour
que
vous.
Je suis un titre très timide, mais effectivement, oui, Média en scène avec Radio France. On adore faire ça avec vous. On va avoir tout le long de la scène, un petit peu avec France Télévisions aussi. On aura des rendez-vous, des débats et une association de nos lectorats à des figures de proue intellectuelles et des figures de proue de notre journalisme.
Des questions rapides, Zoé Sfez, puis Emmanuel Paquette.
Une question, vous avez été l'un des plus grands défenseurs de cette fameuse histoire des droits voisins. On a beaucoup parlé ici de ce projet de directive à l'échelle de l'Union européenne qui est enfin passé au Parlement européen après de nombreux débats. Débats qui concernent notamment un article sur ces fameux droits voisins. Vous avez même invité vos confrères, vous avez pris la parole sur ce sujet plusieurs fois. Vous êtes l'un des défenseurs de cette idée selon laquelle il faudrait obliger les GAFA à payer des éditeurs de presse avec aussi tous les énormes effets pervers possibles dans de
question
ce type de,
donc sur la régulation,
la régulation des GAFA,
GAFA
et surtout manière. Cette question des droits voisins. Est-ce que finalement cet argent, est-ce que Google Actualité existera toujours s'il faut payer? On a vu qu'en Espagne ça n'existait plus. Et puis est-ce que finalement vous n'en serez pas plus dépendant?
Bah, si c'est rapide, c'est compliqué, hein, mais bah, c'est très rapide parce que c'est un sujet énorme pour moi et c'est un sujet sur lequel je travaille, où j'interviens en fait depuis longtemps à l'AFP déjà, vous en souvenez, j'avais été très en pointe, je pense, sur ce thème-là.
Vous avez signé un accord avec Google même.
On le dit, personne n'a jamais pu le confirmer, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais c'est ce qui se raconte. Mais non, vraiment très important, de façon très très sérieuse. Il faut avoir une vision très équilibrée des rapports avec les GAFA. Il faut être ni hostile ni soumis. Moi, je pars toujours de là. Il faut d'abord reconnaître que moi, quand j'ai vu apparaître leur service en 96, 17 et plus tard pour Facebook, j'en ai été utilisateur aussi vite que j'ai pu en fait. Et ils ont de très bons produits. Donc il faut quand même commencer par là. Ne disons pas jamais, ce sont des types affreux,
ni
ils font
ni
très
elle.
Bons produits. Mais vous l'avez pas dit non plus d'ailleurs, mais c'est voilà. Première chose. Donc, en même temps, il faut pas être soumis et il faut aussi avoir un regard très lucide sur la façon dont, avec les effets de réseau dans l'économie des réseaux, se sont constituées des positions extrêmement fortes. Parfois quasi monopolistiques, des positions de concentration du pouvoir, des positions de concentration aussi des revenus. Quand on parle des difficultés de la presse aujourd'hui, il faut avoir en tête un chiffre extrêmement important. En 10 ans, on a perdu 2,3 milliards d'euros de revenus publicitaires. Au même moment, et sans qu'on puisse dire que ce soit exactement les mêmes euros, les plateformes ont gagné 2,6 milliards d'euros de revenus publicitaires. Donc y a-t-il exactement un passage de l'un à l'autre, je ne dirais pas ça comme ça. Gagnons-nous un peu d'argent avec les plateformes? Oui, je dirais.
Là, on est sur le constat. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment on peut lutter? Parce que
moi, j'aime bien partir du constat avant de lutter.
Absolument.
Et choisir aussi. Et j'aime bien choisir le terrain aussi.
Et les armes.
Ouais. Oui, le terrain, c'est bon. Et puis lutter, oui, lutter, ça a toujours un côté guerrier. Mais il faut effectivement avoir un rapport de force. Je crois qu'on est en train de construire.
Mais comment on l'établit?
Le Parlement européen l'a établi. Alors attendez, on l'établit aussi un peu par la pédagogie. Je pense que de plus en plus, les GAFA, et il faudrait faire plein de sous-ensembles parmi eux, mais sont en train de rentrer un peu dans l'atmosphère. Ils se rendent compte que, oui, il n'est pas totalement anormal de payer des impôts dans les pays dans lesquels on extrait beaucoup de valeur. Et moi, j'ai, avec Orange, pendant 8 ans, avec Stéphane, avec d'autres, poussé ce sujet-là, pour une raison d'équité. Ils se rendent compte aussi que, oui, il y a des traditions juridiques qui prévalent en Europe, et c'est ce que le Parlement européen a reconnu avec la mise en avant de ses droits voisins. Il y a des droits d'auteur, et puis il y a des droits aussi accordés à ceux qui contribuent à ce qu'il y ait des auteurs. Eh bien quand même, il faut que ces gens-là aient une rémunération. Donc on construit des rapports de force, on fait du lobbying, ils font du lobbying, on échange des arguments, on pousse ses propres arguments. Et on est en train, je pense, de voir ces jeunes géants aux responsabilités démesurées entrer dans l'atmosphère, réaliser qu'ils ont besoin de composer avec le réel et qu'il faut absolument avoir aussi des relations équilibrées avec des producteurs et qu'il faut notamment pour Facebook, pour dire un mot de Facebook, avoir des contenus de qualité. On est avec les fake news, on en a parlé déjà 8 fois depuis les débuts de cette émission, avec les réseaux sociaux, on est dans ce que Bourdieu aurait appelé la circulation circulaire de l'information, on est dans l'amplification des effets de réseau, on est dans les commentaires à l'infini quand il n'y a pas des petits chats et des gifs animés à partir de choses qui sont par ailleurs des choses parfois fausses, souvent fausses, beaucoup de contenu erroné. Et moi je suis de ceux qui disent que le travail des journalistes et des rédactions qu'on finance, c'est de fournir des balises, des points de départ pour des conversations éclairées, de rectifier quand c'est pas rectifié. On est même parfois face à certains grands hommes d'État dans le monde, à des gens qui produisent des fake facts, c'est même pas des fake news, qui réécrivent leur propre histoire. C'est important que le New York Times, par exemple, et d'autres décortiquent cela.
On parle d'ailleurs désormais de infox, c'est le nouveau mot pour remplacer fake news. Emmanuel Paquette.
Oui, quand on voit que le groupe LVMH, hein, auquel vous appartenez aujourd'hui, fait 42 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2017 avec 5 milliards de bénéfices, que la presse, là-dedans, est gérée dans une structure qui s'appelle Autre Activité, qui pèse pour moins de 1% de la totalité du chiffre d'affaires du groupe. Est-ce que du coup, les pertes du groupe, les difficultés qu'elle peut avoir, c'est pas un peu anecdotique au regard du groupe LVMH et que le groupe peut facilement les absorber et qu'en réalité, il pourrait même se développer encore plus et investir massivement?
Alors vous avez raison Emmanuel, d'abord de nous ramener à notre juste proportion. Nous sommes infiniment petits et également merci de souligner l'extrême réussite du groupe LVMH avec le travail incroyable de M. Arnaud et ses équipes. Bon voilà, moi je suis obligé de constater que c'est une réussite fantastique et la première capitalisation boursière de ce pays.
Donc ensuite, Total est repassé devant.
Dans un mouchoir de poche et c'est une question de jour. Mais simplement.
Sur la question pertinente d'Emmanuel Paquette.
Il n'y a que des questions pertinentes.
Mais celle-là particulièrement.
Particulièrement. Eh bien, moi, j'y vois un encouragement. On est effectivement pas si important économiquement dans un groupe immense qui réussit parfaitement bien. Nous, on a un devoir et une ambition. Et moi, c'est vraiment l'ambition que j'essaie de partager avec tous les salariés. C'est, on va essayer de réussir, nous aussi, dans notre domaine. Alors, notre domaine, il est plus petit. Notre domaine, il est moins générateur de revenus, de chiffre d'affaires et de rentabilité. Mais on va essayer de réussir très bien dans notre domaine.
Une des raisons de la réussite actuelle, par exemple, du Washington Post, c'est que Jeff Bezos a dit, évidemment, il est patron d'Amazon, c'est une fortune encore plus grande, mais au niveau français, LVMH, c'est déjà pas mal. Il a dit, on va investir massivement. Il a créé des correspondants, par exemple, un à Paris qui n'existait pas auparavant, etc. Il a mis de l'argent très massivement. C'est vrai que c'est petit par rapport à l'ensemble de ses revenus d'Amazon, mais on pourrait penser que la même chose serait possible chez LVMH.
Écoutez, on a un actionnaire qui a une immense solidité et qui a déjà énormément investi dans les médias. Le rachat du Parisien, le développement des Échos, le redressement des Échos et le travail et le financement dont on bénéficie pour le redressement de l'ensemble du groupe, voilà, ce sont des investissements massifs.
Mais justement, est-ce que c'est pas aussi l'intérêt? On parle beaucoup quand même, vous avez parlé des faiblesses, des crises des médias en ce moment. Parmi les plus grosses crises, il y a la crise de la légitimité. Il y a aussi évidemment le fait qu'aujourd'hui, la plupart des médias en France n'appartiennent pas à des groupes dont le cœur de l'activité est le média. Vous en faites effectivement l'expérience. Vous faites partie de ce groupe LVMH. Ça rejoint l'autre question des droits voisins. Les droits voisins, si jamais un jour il y en a, ils reviendront au groupe qui possède. On n'est absolument pas certain qu'ils reviendront aux rédactions.
Alors, ça sera vraiment l'étape d'après, quoi. Une fois que le trilogue au niveau européen aura achevé son travail et qu'on aura vraiment des droits voisins, il y aura une étape qui sera négociée avec ceux qui n'ont pas terriblement envie de payer un montant, une assiette, un taux, et donc d'avoir des revenus. Et ensuite, on verra comment on peut en faire bénéficier en partie. Ça sera effectivement largement au profit des éditeurs, c'est très clair aujourd'hui, mais il y aura donc quelque chose pour les auteurs. Et de toute façon, s'il n'y a plus d'éditeurs, il n'y aura plus tellement d'auteurs, hein, en termes de journalisme. Donc il faut vraiment considérer que c'est un ensemble et qu'on a absolument partie liée. Et d'ailleurs, c'était tout à fait patent dans cette campagne-là pour le vote au Parlement, pour inverser le vote au Parlement européen, ce qu'on a réussi à faire. Les rédactions étaient très mobilisées et elles se sont volontiers penchées sur le sujet. Et on a fait un événement, effectivement, aux Échos, auquel elles ont participé parce que tout le monde se sent solidaire face à cette question des droits voisins.
Les Échos qui sont notamment dans un nouveau siège magnifique à Paris et qui montrent une volonté d'investir au moins en termes architecturaux. Une question un peu B2B, comme on dit, c'est-à-dire entre business. Quand on regarde les Échos, on sait qu'il y a de nombreux abonnés, de nombreux abonnements qui sont payés par les entreprises. Est-ce que les Échos peuvent trouver des modèles économiques nouveaux dans justement justement du B2B. Vous citiez tout à l'heure ARC, cet outil du Washington Post revendu à des journaux. Est-ce que les échos peuvent, au fond, avoir des services à l'attention des business?
Alors, les échos le fait déjà. Le groupe Les Échos a déjà un ensemble de publications qui sont à destination des experts comptables, des commissaires aux comptes, de leur propre réseau. Donc, ce sont des publications d'extrêmement bonne qualité qui, parfois, peuvent être endossées par eux, distribuées à leurs clients. Donc là, on est dans le B2B tout si, pour prolonger votre B2B.
Et on va vers le business qui eux-mêmes vont vers les consommateurs.
Exactement. On le fait également dans le domaine des salons. Donc c'est déjà largement le contrat de lecture, comme vous le disiez, Frédéric, est souvent une entreprise se dit mes salariés, pour être d'honnêtes femmes et d'honnêtes hommes au sens ancien du terme dans l'entreprise,
il faut qu'ils soient informés.
Voilà. Et donc on leur offre la
bonne. Emmanuel Paquette.
Oui, dans tout le marasme de la presse française aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements capitalistiques, il y a des titres qui sont cédés. On entend que le groupe LVMH veut se développer encore plus dans les médias, regarderait souvent des dossiers. Est-ce que vous êtes là aussi pour faire grossir cette division au sein d'LVMH? Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt en ce moment dans un plan d'un peu de réduction des coûts et donc vous n'avez pas la tête encore à faire des acquisitions
Hors de l'eau.
Deux choses à dire là-dessus, pardon. D'abord, on ne dit jamais qu'on est extrêmement acquisitif, ça fait monter les prix. Donc, c'est pas vraiment.
Donc, vous n'êtes pas acheteur, alors?
Alors, je suis vraiment pas acheteur de rien. rien du tout. Non. Plus sérieusement aussi, bien sûr qu'on peut regarder des dossiers. On en regarde plusieurs actuellement.
Boursier.com, par exemple.
On informe nos salariés dès qu'il y a des démarches qui s'engagent. Donc voilà, et je récuse vraiment l'idée qu'on est engagé dans un plan d'économie. Par contre, j'assume totalement le fait que c'est une bonne hygiène permanente quand on est dans une transition digitale et dans des difficultés forcément économiques comme celle-là. C'est une bonne hygiène que en permanence regarder où on alloue ses moyens et de réduire ici ou là les coûts quand on peut. Voilà, je l'ai fait tout le temps, on le fait chez Orange, on le fait dans tous les groupes, mais je vais le faire aujourd'hui et demain là où je suis.
Une dernière question, Pierre Louette, avant de clore cet entretien. On n'a pas parlé des échos week-end, notamment d'un magazine que vous avez lancé et où là où on voit un magazine formidable, pour le coup je le dis parce que je le pense. Ça veut dire qu'il y a là il y a un travail de rédaction, il y a un rédacteur en chef, il y a des contenus. On a inventé au fond, comme d'ailleurs le magazine du Monde un peu d'une autre manière, un supplément hebdomadaire nouveau pour le week-end.
Ah oui, c'est une réussite formidable qu'on doit à mes prédécesseurs et puis à Nicolas Barré, Henri Gibier. C'est un très beau magazine. Effectivement, ça montre que quand on peut bien réfléchir et quand on met une équipe de qualité, on peut avoir des succès dans la presse et dans la presse magazine.
Alors, le magazine ne va pas très bien en ce moment quand même, hein, on peut le dire.
Oui, alors là, c'est vraiment différent. C'est pas tout à fait la presse magazine, c'est un magazine qui est inséré dans un quotidien. Donc c'est vrai que, et moi, la chose qui me frappe le plus, c'est qu'il est parfaitement cohérent avec le contrat de lecture des Échos. On le prend et on est toujours dans les Échos, mais en version week-end avec plus d'images, c'est
et
ça qui vous plaît.
Et du long,
des photos,
non,
des dessins,
et des textes longs.
Des
surtout.
Trucs un peu coloriés. C'est toujours bien à lire. Moi aussi, je partage cette joie et des milliers de lecteurs aussi.
Pierre Louette, comment dire, infiniment petit dans le groupe LVMH. Voilà.
Absolument.
1-0, la balle au centre. Vous reviendrez pour poursuivre cette conversation. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, la seconde partie de Soft Power avec à 20h10 le club de la presse numérique où on parlera du cloud, des serveurs, des millions de serveurs qui hébergent vos photos mais aussi vos données ainsi que vos musiques. On sera avec Romain Pigenel et Emmanuel Paquette. Vous restez avec nous pour ce rendez-vous. Dans un instant, brièvement, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Pierre Musso, auteur avec Jean-Louis Messica des robots dans la ville. Qu'est-ce que la voiture autonome va faire de nous?
Vous pouvez vous abonner en attendant pour être sauvé. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça après Two Face, Dance Go sur France Culture.
Everybody come make you follow me go. Make you follow me, they feel the rhythm. Say you know I'm capable of. I am capable in every season. Make you dance and feel the flow. Make you drink and party with me. When the body don't start to play. Say you know I'm the melody key.
And anything you need, I got ya. And don't be. Oh yeah, I'm back. In this game, baby, come over. Cause I don't.
À l'instant, le rappeur Two Face, donc connu sous le nom de Two Face, avec le chiffre 2 dans son album Enfana Ibaga. Avec quelques autres, Two Face a inauguré un nouveau sous-genre de musique, Afrobeat, né à Lagos, au Nigeria, et qui a irrigué peu à peu la scène hip-hop africaine, puis londonienne et bientôt mondiale. On est là au cœur, aux racines même de la pop actuelle, mélange des genres afro, reggae et bientôt rap. Écoutez maintenant cet autre morceau qui puise également ses racines dans l'afrobeat. Il est signé Drake et c'est l'un des tubes de ces dernières années où l'on voit combien complexe, expérimentale, diverse est la musique contemporaine et combien africaines sont ses racines.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance.
Two Face, Dance Go, suivi de Drake, One Dance, les deux morceaux très liés par leur rythme, par les genres afro, reggae et bientôt et également rap. Sur ce sujet, vous pouvez lire Beats Generation, un article de Kelefa Sané dans le New Yorker cette semaine. France Culture, précisément 20h.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Pierre Musso.
Bonsoir Zoé Svez.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes là pourquoi ? Eh bien parce que vous avez coécrit un livre avec Jean-Louis Missika. Vous-même, vous travaillez à la ville de Paris. Vous êtes, vous m'avez dit, un fonctionnaire d'État détaché au service de la ville de Paris, où vous conseillez Jean-Louis Missika sur les sujets de ville intelligente et durable. Jean-Louis Missika, qui est, si vous le rappelez, adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture et du Grand Paris, notamment. On l'avait déjà évidemment entendu ici sur ces questions-là. Et tous les deux, donc, vous co-signez ce livre des robots dans la ville, comment les voitures autonomes vont changer nos vies. Et l'espèce, c'est le sous-titre officiel, mais le deuxième sous-titre pourrait être « Et comment la ville va changer ? Et que peut faire la ville face à ces véhicules autonomes ?» C'est un petit peu l'enjeu de ce livre. Alors, on avait consacré une très large émission aux véhicules autonomes dans la dernière saison de Soft Power. C'était notre dernière émission de la saison, parce qu'on se disait que c'était le futur. C'est un livre extrêmement dense, plein d'énormément de références, et notamment... on a certains termes qui reviennent de manière très récurrente, évidemment celui de voiture autonome, celui de taxi robot, celui de free floating, celui de l'économie du partage. Peut-être une première question justement sur cette logique de la voiture autonome. On parle de voiture intelligente puis connectée, à terme de voiture autonome. Vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, vous étiez notamment à l'ADEME, je crois, l'agence pour
l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Dans ce livre, quand on parle de voitures autonomes, on parle de quoi ?
Alors, dans ce livre, on parle de la technologie d'aide à la conduite jusqu'à aux nouveaux cas d'usage que vont permettre ces solutions technologiques. Et ça va être potentiellement des robots dans toutes les fonctions urbaines de la ville. Mais les premiers auxquels on pense, évidemment, c'est des usages pour se déplacer. C'est des usages, comme vous le disiez, de taxi-robots qui sont aujourd'hui expérimentés déjà par des sociétés en Californie, en plusieurs villes aux États-Unis, en Chine et aussi en France. On teste déjà des taxis-robots, alors toujours avec des personnes à bord pour reprendre le volant à tout moment. Mais c'est des premiers cas d'usage sur lesquels, à la ville de Paris, on veut travailler aussi. Les premiers qu'on a expérimentés, ce sont des navettes autonomes
qui roulent très très lentement pour le moment.
Voilà, qui ont des autorisations pour rouler qui sont limitées encore à 10 km/h, donc effectivement c'est lent, mais ça permet déjà de faire comprendre ce que c'est cette technologie, de la faire expérimenter par beaucoup de gens. Quand on le fait à Paris, on a rapidement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent la tester. C'est le cas pour celle qui est expérimentée depuis un an à Château de Vincennes et qui a déjà reçu 30 000 passagers. qui découvre ce que c'est aujourd'hui rouler dans un robot. Alors il y a toujours une personne à bord, mais c'est une première expérience et il y a d'autres cas d'usage qui vont arriver très bientôt dans nos villes.
Alors dans nos villes, il y en a évidemment qui existent déjà beaucoup aux États-Unis, qui existent déjà aussi notamment au Japon. Vous parlez notamment d'une expérience avec des robots, je crois, au Japon, des camions qui seront à la fois des bus, à la fois peuvent être, par exemple, des magasins de chaussures. On pourra peut-être, si on pousse le raisonnement très loin, non seulement un jour être transporté par un robot, mais en plus être transporté tout en faisant quelque chose, en mangeant si on a besoin de manger sur le trajet, en achetant des chaussures ou en se faisant couper les cheveux. En parallèle de cette question de la voiture autonome, il y a la question du free-floating. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi on parle quand on parle de free-floating ?
Alors, dans ce livre, en fait, on parle de toutes les révolutions des mobilités et le free-floating en fait partie. C'est une révolution très récente qu'on a découvert il y a pratiquement un an. Ça veut dire, on essaye de le traduire en français par libre flotte. C'est finalement des vélos, des trottinettes, des scooters en libre service qui n'ont plus besoin de station aujourd'hui pour se garer et qui vont aussi concerner les voitures. On est en train de démarrer les premiers services de free-floating de voitures à Paris, de voitures électriques, qui présagent l'avenir de ce que sera le taxi-robot.
Donc c'est un peu la fin, si vous voulez, de l'autonomie, mais il n'y a plus la borne, en fait, c'est ça le principe.
Il n'y a plus la borne, il n'y a plus besoin de borne. Aujourd'hui, les modèles numériques des plateformes permettent d'organiser autrement les services de mobilité, mais c'est sans poser de... Enfin, ça pose un certain nombre de questions d'occupation du domaine public. On le sait avec les vélos et les trottinettes qu'on voit sur les rues de Paris et dans de plus en plus de villes qui sont pas toujours très bien stationnées. Alors on travaille avec les opérateurs pour l'organiser. Ça va poser beaucoup de questions demain. Ça pose de plus en plus de questions dès aujourd'hui, dès lors que des opérateurs sous forme de plateforme numérique investissent les villes avec plusieurs milliers, dizaines de milliers de véhicules sans régulation. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut réguler ça dès aujourd'hui avec les services de mobilité qui sont déjà arrivés dans nos villes et comment on doit se préparer à des services de mobilité qui ont vocation à se généraliser.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la question que vous posez, c'est la question de la régulation. Dans tout le premier chapitre, qui est effectivement très exhaustif, vous parlez de ce dont on a parlé dans nos émissions, avec tous les enjeux d'éthique, de perfection technologique sur la voiture autonome. Mais au-delà de ça, la question, c'est celle de la régulation. Vous citez dans ce livre plusieurs études sur ce qui se passe déjà et des prospectives aussi sur ce qui pourrait se passer, ce qui se passera demain si on arrive vraiment à une voiture autonome. Alors évidemment, vous débattez aussi de cette fameuse le tout autonome. Quand c'est, est-ce que c'est en 2030, est-ce que c'est en 2040, est-ce que c'est en 2050? Mais si on pousse un peu la logique un peu plus loin, si on regarde ce qui pourrait se passer dans 20 ans, dans 30 ans, quelles seraient les conséquences d'un monde et surtout de villes où beaucoup, et on va voir pourquoi, de véhicules seraient autonomes? Est-ce que des transports en commun survivraient? Faut-il qu'ils survivent? C'est quoi les grandes lignes de ce qu'on voit quand on regarde un petit peu la littérature en la matière?
Alors la première chose, c'est qu'on pense que la révolution va être similaire à celle qu'on a connue entre le passage de la voiture à cheval à l'automobile. Ça a radicalement transformé nos villes, et pas forcément pour le meilleur, puisque on a adapté la ville à la voiture et non le contraire. Donc le risque, c'est que ça se passe de la même manière et que la ville, ça doit s'adapter à des véhicules aux robots qui vont circuler. Mais on peut potentiellement inverser cette situation et chercher à organiser la ville pour que les robots se circulent dans la ville de manière à favoriser ce qu'on a envie dans nos villes, c'est-à-dire de continuer à circuler à pied, à vélo et avoir une meilleure cohabitation, un meilleur partage de l'espace public. C'est un des enjeux de cette régulation. Aujourd'hui, En fait, l'avenir, on peut le regarder en analysant ce qui se passe avec le développement des plateformes numériques de VTC. On cite les études à New York ou dans Manhattan. On voit bien que les VTC, que ce soit des plateformes comme Uber, Lyft ou Didi, sont en train d'augmenter drastiquement la congestion dans le cœur de ville. À Paris, on n'a pas les données. Donc on ne sait pas à quel point, on n'est pas capable de dire à quel point ça augmente la congestion dans le cœur de Paris, mais on soupçonne que c'est un véritable impact, ou la logistique du dernier kilomètre avec le développement du e-commerce. Ces nouvelles plateformes numériques ont des impacts qu'on devrait dès maintenant chercher à réguler, et c'est très intéressant de regarder ce que le véhicule autonome va permettre pour anticiper maintenant des outils de régulation.
Parce que pour faire un petit rappel, en effet, on a des chiffres aux États-Unis où en fait, alors que les plateformes de VTC mettent en valeur le partage, on met en valeur le fait qu'elles sont plus écologiques parce qu'il y a de plus en plus de véhicules verts, et bien il y a de plus en plus aussi de gens qui tournent en attendant leur course et donc qui congestionnent le trajet dans la ville. Alors si tous ces gens-là, si à la fin on se retrouve avec des véhicules autonomes, y compris des véhicules ce qu'on appellerait les taxis robots, donc qui seraient aujourd'hui le chauffeur Uber, mais sans le Uber, il y a une conséquence, notamment à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais ce sera probablement l'effondrement du coût d'un trajet en taxi, en robot.
C'est une hypothèse qui est discutée, parce qu'aujourd'hui les technologies sont encore très chères. Si on équipe des véhicules actuels avec plusieurs systèmes de capteurs au prix où ils sont encore aujourd'hui, ça fait des véhicules très très chers, mais on anticipe une baisse drastique du coût. Et effectivement, un système de transport qui pourra, avec des taxis robots, avoir des coûts réellement plus bas.
Donc ça voudrait que tout le monde d'un coup pourrait potentiellement se dire, mais en fait moi je vais me déplacer uniquement en taxi robot. Plus besoin de transport en commun si ça coûte 1 €.
Tout à fait. C'est un risque et effectivement, si ces véhicules circulent sans arrêt, voire à vide, là où tout le monde veut aller, dans les cœurs de ville en particulier, ça va être un réel danger pour l'organisation de nos villes. Donc il faut y l'anticiper. New York est intéressant parce que en août, suite aux études que je citais et qui montraient l'impact de la congestion liée au VTC, ils ont décidé de remettre des quotas sur les VTC. Est-ce la bonne solution? C'est pas sûr, parce que l'intérêt du véhicule autonome et déjà des VTC, c'est de pouvoir desservir de plus grandes zones aujourd'hui dans les agglomérations. Donc il faut réfléchir à une organisation de ces transports de manière à ce que ça puisse continuer à améliorer le service de mobilité et finalement à élargir, à réinventer les transports en commun.
Une dernière question sur ce sujet extrêmement dense. Vous concluez aussi avec un chapitre 5 qui s'appelle « Pour une diplomatie des villes ». On l'a vu, les États ont énormément de mal aussi à adresser à la fois les géants de ces plateformes et ces questions-là. Et vous militez, on est à la ville de Paris, pour un rôle accru des villes. Qu'est-ce qu'elles peuvent, les villes, aujourd'hui, concrètement?
Alors, la ville de Paris est déjà impliquée dans cette diplomatie internationale. La maire de Paris est présidente du C40, du Club des villes engagées dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est un des réseaux qui, aujourd'hui, pose la question de la place du véhicule autonome. Comment le véhicule autonome peut participer à nos ambitions climatiques? Donc, l'objectif, c'est de partager avec les villes, comme on a déjà commencé à le faire, des engagements, comme la sortie du diesel, par exemple. Et demain, de travailler sur des outils partagés pour organiser le véhicule autonome dans nos villes.
Bon, écoutez, merci beaucoup Pierre Musso. Je rappelle quand même que ce livre donc s'appelle « Des robots dans la ville ». Il y a une bibliographie extrêmement riche. Et dans votre conclusion, vous appelez surtout à ce que tous les candidats, à la fois aux municipales et aux européennes, en fait, prennent position sur ces questions des véhicules autonomes en disant « En fait, il faut qu'on commence à en parler puisque tout ça est quand même très, très proche ». Merci beaucoup. Donc, Pierre Musso, auteur avec Jean-Louis Missika de ce livre paru aux éditions Taillandier, « Des robots dans la ville ».
Merci infiniment à vous, Zoé Sfez, avec votre invité ce soir, Pierre Musso. Le temps de vous recommander un livre, petit clin d'œil numérique, du moins si vous lisez l'italien, Confessione di un NEET, ça s'écrit N-E-E-T, c'est d'ailleurs un anglicisme. L'ouvrage est signé Sandro Frizziero, il vient de sortir et connaît le succès en Italie. Qu'est-ce qu'un NEET, N-E-E-T, Not in Education, Employment or Training? Un NEET, c'est un jeune qui ne travaille pas, ne va plus à l'école, il passe ses journées chez lui, ou mieux, dans sa chambre, chez ses parents, ne quittant pas son ordinateur ni internet. C'est un geek d'une certaine manière ou un otaku qui fait la grève à la vie scolaire et professionnelle, un petit Rimbaud un peu époque mauvais sang. Si ça vous rappelle votre fils, eh bien lisez peut-être ce livre en italien, en tout cas si vous lisez l'italien. Sandro Frizziero, Confessione di un NEET, vient de paraître en italien chez Fazzi.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, Club de la presse numérique, notre rendez-vous désormais tous les dimanches, 20h12 en fait. Et nous parlons ce soir du cloud, ces millions de serveurs qui hébergent nos données, nos photos, nos musiques. On parle en général de cloud, en français, en bon français, info nuage ou info nuagique ou les nuages, ce qui est parfois pas tout à fait clair. En tout cas, ces millions de serveurs permettent de conserver des photos, des musiques, je l'ai dit, des données. Sont-ils français? Que veut dire pour une compagnie du cloud être français? Nous passons au banc d'essai les différents clouds avec vous, Romain Pigenel. Bonjour.
Bonsoir.
Rebonsoir, start-upper, cofondateur de Futur.io, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Pour commencer, c'est quoi un cloud, Romain Pigenel?
Très simplement, le cloud, c'est une technologie qui consiste à utiliser des serveurs à distance, soit pour leur capacité de stockage, soit pour leur capacité de calcul. Donc en fait, il y a effectivement l'application, je dirais, entre guillemets, passive que vous avez énoncée en premier, c'est-à-dire l'utilisation simple qu'on peut en faire tous en tant que consommateur pour stocker des données. Et après, l'utilisation plus industrielle, plus pour les entreprises qui peuvent carrément utiliser des ordinateurs à distance, des serveurs pour déporter leur infrastructure, pour ne plus avoir...
Ce qui permet à de nombreuses startups de se développer très vite puisqu'elles louent non seulement des données, des serveurs pour leurs données, mais aussi les logiciels et des infrastructures qu'elles n'ont pas achetées.
Ce qu'on appelle par exemple l'infrastructure as a service, et ça concerne pas seulement les startups, mais aussi de plus en plus les grandes entreprises qui voilà une capacité, une possibilité à être plus agile, à pouvoir, comme on dit, scaler leurs infrastructures et leurs besoins en fonction de la demande, et puis avoir à faire des énormes investissements coûteux et aussi en termes de gérance, évidemment.
Emmanuel Paquette.
Oui, c'est ça. En fait, on transforme. Alors, je suis désolé, j'ai parlé un peu d'aspect financier. On transforme ce qu'on appelle des capex en opex. Un capex, c'est je veux une maison, je m'achète ma maison, donc ça me coûte très cher. Et l'autre possibilité, c'est j'ai pas l'argent, je vais louer. Alors, donc je loue. Ça, c'est un opex. Donc l'opex, généralement, c'est quelques milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros que vous pouvez dépenser chaque mois en location. Et plus vous avez besoin de puissance, de capacité de stockage, on va louer plus de ressources et vous paierez un peu plus cher. Donc votre loyer mensuel va être un peu plus cher. Mais la contrepartie, c'est que vous n'avez pas à acheter la maison dans laquelle vous allez habiter, vous avez simplement à la louer, donc c'est beaucoup moins onéreux à court terme. Donc les entreprises, ça leur permet quand même d'avoir une structure de bilan qui est beaucoup plus saine et de dégager des bénéfices de manière plus facile.
Alors les entreprises, mais aussi les individus, on parle souvent de lorsqu'on regarde ses photos, lorsqu'on a ses musiques, lorsqu'on écoute Spotify, visionne Netflix. En réalité, on utilise des clouds, souvent d'ailleurs Amazon Cloud Services, on y reviendra, puisque l'essentiel des films, des séries télévisées de Netflix sont hébergés par Amazon, mais ça peut être aussi une Dropbox, sous Apple ça s'appelle l'iCloud, sous Google c'est le Google Drive. Donc on a à la fois des clouds privés pour les individus et puis les clouds d'entreprise dont on a parlé il y a un instant. Quels sont les grands clouds et surtout quand on parle d'un cloud français, puisqu'évidemment ce débat est celui des données, où sont protégées ces données, qu'est-ce que c'est un cloud français, entre guillemets, Emmanuel Paquette?
Alors déjà, il y a trois types de cloud. Il y a ce qu'on appelle le cloud public. Le cloud public, c'est que vous déportez tout dans des serveurs extérieurs. Donc par exemple, si vous utilisez Google Drive, par exemple, chez Google, donc vous stockez vos fichiers d'images, vos textes, c'est un cloud public, n'importe qui peut y avoir accès. Vous, moi, on crée une session, on peut y aller dessus, etc.
Même si notre compte est privé, quand même.
Exactement. Ouais. iCloud, c'est pareil. Et chez Microsoft, c'est la plateforme Microsoft Azure. Vous pouvez avoir Office 365, par exemple, sur lequel vous pouvez utiliser Word, Excel, etc. Et vous louez, vous payez chaque mois quelque chose à Microsoft pour y avoir accès. Mais tout ça n'est pas chez vous. Tout ça est hébergé à l'extérieur sur les serveurs Microsoft. Après ça, vous avez le cloud privé. Donc là, on parlait d'acteurs du type OVH. Donc là, je suis une entreprise. Je crée moi-même ma structure de serveur, je loue ce dont j'ai besoin, mais c'est que pour moi. Personne d'autre ne se connecte sur ces serveurs. Donc ça, c'est le cloud privé. Et ce qu'on appelle le cloud hybride, c'est un mixte un petit peu des deux, c'est-à-dire je peux accéder à des choses privées où j'ai acheté une des capacités de serveurs qui ne sont que pour moi, mais à côté de ça, j'utilise aussi du cloud public, c'est-à-dire, je reprends l'exemple de Microsoft, je vais avoir ma messagerie Outlook qui sera chez Microsoft, donc toute mon entreprise utilisera Outlook pour avoir accès à ses mails. Toute mon entreprise utilisera Office 365 pour utiliser Word, Excel, etc. Et en revanche, mes documents un peu plus sensibles, je les mettrai sur une autre partie privée, pour le coup, qui sera dédiée à l'entreprise.
Romain Pigenel, on a parlé à l'instant d'OVH. C'est quoi OVH?
OVH, c'est une entreprise française, une success story, peut-être même une des, je crois que c'est une licorne, enfin on peut l'appeler comme ça, qui est probablement le seul acteur, alors français c'est sûr, européen, à pouvoir peut-être jouer ou approcher la cour des très grands acteurs du cloud. Donc c'est-à-dire aussi bien pour de l'hébergement de sites qu'aujourd'hui c'est aussi là, je crois, le plan qu'ils ont mis en place de développement pour aller concurrencer ou chatouiller les Amazon, les Google, les Microsoft sur le fait de fournir aussi du cloud computing ou tous les types de services qu'on a dit aux grandes entreprises. Et c'est aussi une société qui porte porte justement un discours, comme d'autres sociétés françaises dans le contexte actuel avec le RGPD, avec les inquiétudes sur ce que peuvent faire les gens américains de données, qui porte un discours sur l'importance justement d'avoir une forme de souveraineté qui soit rétablie sur le cloud. Et pour répondre à la question que vous posiez auparavant, ce serait quoi la question d'un cloud souverain? Ça serait la question de savoir si nos données sont hébergées en France par une entreprise française, et surtout si on va au bout de la discussion sur les serveurs eux-mêmes qui, sur lesquels la France aurait la main ou la
capacité l'autorité juridique en tout
voilà,
cas.
Ouais. Ce qui déjà sur ce point-là montre qu'il y a une difficulté, puisque en fait les
même
machines
même OVH a des machines aux États-Unis, etc.
Alors il y a ça, et puis aussi qui a fabriqué les machines, et on se souvient notamment que Quant, le serveur, enfin le moteur de recherche, avait été justement un peu pris dans une polémique où il était accusé d'utiliser justement des machines Huawei qui pourraient avoir des backdoors et donc qui pourraient être utilisées, même si tout le service est hébergé en France, qui pourrait peut-être être utilisé par.
Et puis Quant utilise notamment Bing, le moteur de Microsoft, etc. Sur ça, Emmanuel Paquette, on a vu cette semaine le secrétaire d'État au numérique Mounir Majdoubi annoncer qu'il allait utiliser uniquement le service Deezer à la place de Spotify pour être français. Ça veut dire quoi, Deezer, entreprise française, quand on sait qu'elle n'appartient plus à des Français?
Oui, parce que le capital de Deezer aujourd'hui est détenu à majorité par Access Industries, donc une holding, un fonds de capital risque, qui lui-même est détenu par Lev Blavatnik, donc qui est un Russe né en Ukraine. Et c'est aujourd'hui, donc Deezer est russe avant tout et plus du tout français. Alors il se trouve que Orange a toujours une participation capitale autour de 10%. Voilà. Il y a d'autres investisseurs qui sont encore au capital de Deezer, mais majoritairement, en plus il y a des levées de fonds généralement, puisque c'est assez consommateur d'argent, l'expansion et le développement de Deezer. Donc généralement Access Industries prend des parts à chaque levée de
fonds. Donc le secrétaire d'État, c'était une position très populiste que de dire il faut aller sur Deezer, alors même que Spotify paraît plus européen que ne l'est Deezer, paradoxalement.
Exactement. En plus, il faisait un appel à Daniel Marelli, qui a quitté la société depuis déjà un certain temps, de Deezer. Donc, effectivement, je pense que là, il y a eu une petite erreur, un petit couac de communication.
Si on prend d'autres exemples, avant d'en revenir au cloud, les entreprises françaises, quand les serveurs sont un peu partout dans le monde, quand il faut des capacités de calcul phénoménales, quand il faut aussi être en réseau, quand par définition OVH veut s'installer par exemple aux États-Unis et donc doit avoir aussi des serveurs là-bas, ça veut dire aussi que le problème des clouds souverains, Romain Piginel, est un problème parfois un peu insoluble.
Oui, en même temps, ce que ça veut dire qu'il faut rien faire, probablement pas. Alors, le terme est justement aujourd'hui, il a un peu une mauvaise presse, parce qu'on se souvient que la France avait eu l'idée, je crois que c'était en 2010.
De créer un cloud souverain.
Alors, le projet qui partait sans doute de très très bonnes intentions avait après accumulé un peu tous les tares habituels. En tout cas, les tares qu'on a souvent vu sur des grands projets informatiques d'État ces dernières années. Donc, il y avait eu d'abord pas un projet, mais deux projets avec deux collectifs d'acteurs, CloudWatt et Numergy. Et après, alors pour plein de raisons, et probablement, je pense aussi parce que le marché en France n'est pas totalement mûr à ce moment-là, notamment du côté des entreprises. Les deux initiatives ont fait long feu. Alors je crois que CloudWatt continue à fonctionner, en tout cas comme une marque du côté de chez Orange. Mais on voit bien que c'était compliqué d'arriver à imposer des systèmes par en haut, et que c'est comme toujours compliqué quand on essaye de faire les choses décrétées sur un coin de table de ministère et pas en partant de la réalité du marché.
Parlons une seconde maintenant, Emmanuel Paquette, du Cloud Act, pardon, c'est-à-dire le statut juridique de ces cloud et comment est-ce que c'est négocié actuellement?
En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, l'administration Trump a fait voter une nouvelle disposition au mois de mai 2018 qui fait qu'aujourd'hui, un juge américain qui est en charge d'une enquête peut autoriser la saisine de données qui sont stockées ou hébergées sur des clouds n'importe où dans le monde si la société est américaine. C'est-à-dire si vous êtes chez Amazon, si vous êtes chez Google, Microsoft, ça veut dire que vos données pourraient être consultées par un juge. Alors encore une fois, il faut qu'il y ait une réquisition judiciaire, donc encore une fois, c'est encadré par un juge. Donc ça veut dire que c'est aussi opposable par Microsoft, Google ou un autre, en disant que le juge n'a pas bien fait sa saisine.
On peut faire appel, etc.
Mais en tout cas, dans ce cadre-là, ils peuvent avoir la main sur à peu près toutes les données dans le monde.
Que se passe-t-il pour OVH qui a des serveurs aux États-Unis et pourtant c'est une société française?
Alors OVH et un autre. Enfin, il y a d'autres acteurs qui ont fait ça. Il n'y a pas que OVH. Ils ont créé donc effectivement des filiales aux États-Unis, mais qui sont distinctes des filiales européennes. Ce qui fait que la filiale américaine, elle est dépendante du Cloud Act. Donc, en cas de saisine d'un juge, elles vont donner les éléments que le juge demandera. Mais en revanche, si le juge fait une demande à l'extérieur du territoire américain, par exemple en France ou ailleurs, alors à ce moment-là, il faudra repasser par le système traditionnel qu'on appelle les accords bilatéraux. On appelle ça le MLAT. Donc, il faut faire une demande au juge français, et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça ça que le Cloud Act a été voté, c'est pour passer très vite et ne pas avoir un accord bilatéral avec un autre juge dans un autre pays.
Sur cette question, Romain Pigenel.
Oui, bah, je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça démontre qu'il y a une immense bataille normative et juridique qui est en train de se mettre en place. C'est probablement aussi une réponse à ce qu'a fait l'Europe avec le RGPD. Et ça préfigure, à mon avis, une évolution qui va être forte de ce secteur du digital et du numérique dans les prochaines années. C'est-à-dire de plus en plus, on verra des blocs avec à la fois les États et les grandes puissances régionales, que ce soit la Chine, la Russie, qui pousseront de plus en plus leurs intérêts économiques, leurs entreprises, et qui les défendront en utilisant les outils légaux. Et on peut se souvenir à cet égard d'un exemple qui n'est pas numérique, mais qui permet de voir ce que peuvent faire les Américains dans ce cas-là. C'est ce qui est arrivé à Alstom, dont on sait bien que, vous vous souvenez de l'histoire avec la filiale qui a été, Alstom qui a été plus ou moins revendue à General Electric. Et on se souvient qu'à ce moment-là, les opérations avaient été facilitées par le fait qu'il y avait en même temps une procédure judiciaire du gouvernement américain, alors certes sur des faits apparemment réels, mais qui était opportunément, cadencée avec ce que faisait General Electric pour arriver à affaiblir justement la filière française et à permettre à cette boîte américaine de mettre la main sur son concurrent français.
Je vous propose maintenant de terminer par une sorte de banc d'essai, je l'ai dit, de différents clouds. Alors il faut bien sûr séparer très fortement les clouds qui concernent les consommateurs, donc tout le monde peut utiliser, puis les clouds d'entreprise. Commençons par ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire vers les consommateurs. Les grands clouds les plus utilisés par beaucoup de monde sont l'iCloud pour Apple, l'Amazon Drive, le Google Drive, la Dropbox. Il y a aussi Mega. Quels sont vos avis les uns les autres en termes de sécurité, en termes de fiabilité, sachant que la sécurité, c'est à la fois où sont mes données, mais aussi est-ce que le cloud marche. C'est parfois aussi important que de savoir où les données sont stockées, Romain Pigenel.
J'imagine, pour est-ce que cloud marche, que vous faites référence au problème qu'il y avait eu côté OVH il y a un an notamment, qui n'est d'ailleurs pas sur du cloud grand public, mais plutôt sur
du cloud d'entreprise.
Voilà. En l'occurrence, je pense que l'entreprise à l'époque avait justifié ce qui est arrivé en expliquant qu'elle était très mobilisée sur son développement outre-Atlantique. Et ça prouve bien aussi, je dirais, qu'il y a une fragilité de ces acteurs-là, en tout cas quand ils n'ont pas la masse critique que peut avoir un Google ou un Amazon. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait auparavant, il y a quand même une importance qui est un soutien de l'État, alors intelligemment, pas forcément en organisant des grandes filières d'en haut, mais pour arriver à ce que les marchés publics, les ministères, etc., appuient par leur commande publique ces acteurs pour qu'ils arrivent à se développer et qu'ils puissent rattraper la masse critique qui est celle des grands acteurs américains.
Emmanuel Paquette, sur le B2C, pour les consommateurs, quels sont les clouds qu'il faut recommander ?
C'est pas tant recommandé que ça dépend des usages que chacun peut avoir. C'est-à-dire, si quelqu'un a un iPhone aujourd'hui, de toute façon, s'il veut changer d'iPhone et récupérer toutes ses photos,
il passe sur un cloud.
Ouais. Il est assez fortement conseillé de passer sur iCloud, même si certains, même ici dans cette salle, n'ont pas souhaité le faire. Mais il se trouve que... pas du tout, moi j'étais obligé de le faire, mais l'environnement fait que, en restant dans l'environnement,
mais avec tristesse. Voilà. La Dropbox, ça reste un système assez sûr, qui n'appartient pas à un grand acteur.
Il y a eu des failles de sécurité, mais il y en a régulièrement un peu sur tous les acteurs, donc c'est compliqué. En fait, c'est un peu comme dans la vie réelle. Si vous avez des documents, des choses très importantes, qui sont de l'ordre du confidentiel, que vous voulez pas voir étaler, gardez-le chez vous, sur un disque dur, à vous, chez vous, à la maison, ou une clé USB. Si c'est des photos de vacances, etc., si tant est que ces photos de vacances soient normales, vous pouvez les stocker sur iCloud, Google, etc., c'est pas grave. Je pense que il faut gérer son stockage et ses applications en fonction de la sensibilité et la confidentialité qu'on a derrière ces différents éléments.
Pour terminer, le B2B, ce coup-ci, c'est-à-dire pour les entreprises. Alors là, on a des gros acteurs. On a parlé d'OVH, on a parlé de Microsoft Azure, Oracle Cloud, qui est chinois, avec Alibaba Cloud. OVH, donc le français, Amazon Web Services, Romain Pigenel.
Je suis pas un expert en bande d'essai, mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait juste à l'instant. Vous savez, il y a un petit cartoon qui circule sur Internet chez les développeurs depuis longtemps et qui résume bien la situation. C'est écrit dessus, ce n'est pas stocké dans le cloud, c'est stocké sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc je crois que ça résume bien le problème. Et quand on parlait justement des stratégies de différenciation données...
Mais en même temps, on n'a pas le choix, on ne va pas garder tous ces films Netflix et toutes ces musiques Spotify ou Deezer dans son ordinateur.
Une musique Spotify n'est probablement pas la définition canonique d'une donnée hyper importante.
Oui.
Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant ce qu'a annoncé l'État un peu avant l'été avec sa nouvelle stratégie, puisque l'État veut pousser justement l'administration à faire de plus en plus usage du cloud pour gagner tout ce qu'on a dit en flexibilité, en sécurité. Et on voit la logique que propose l'ANSSI et qui est exactement celle que disait Emmanuel Paquette, c'est-à-dire il y a trois strates. Les informations les plus critiques, les plus importantes pour la sécurité de l'État seront justement sur un cloud qui sera hébergé, contrôlé par l'État. Et après, ce qui est recommandé de mettre sur les clouds publics, c'est uniquement tout ce qui est des informations non critiques. politiques, des messageries qui n'ont pas de données sensibles, etc. Donc je pense que c'est le plus important pour une entreprise.
Quelques recommandations, si on veut héberger français OVH, leader européen du cloud et leader français, Amazon Web Services est moins cher, puisque les comptes des utilisateurs sont gratuits au moins la première année, même d'ailleurs sur la durée, c'est assez bon marché. En revanche, ça reste dans les deux cas assez geek, ça veut dire qu'il faut être un peu spécialisé, en tout cas si on veut héberger des sites ou si on est dans le monde professionnel. Par exemple, le système de facturation d'OVH est complètement impossible à comprendre actuellement. On dirait les PTT, on peut pas payer son truc régulièrement. Enfin, ça marche très très mal. C'est pas du tout intuitif. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on est sécurisé? Quelle sécurité, quel usage, quelle intuitivité, quelle facilité d'accès aussi? C'est tout ça sans doute qu'il faut prendre en compte.
Oui, effectivement, il y a plein de paramètres, sachant que, encore une fois, quand les données sont stockées sur un serveur extérieur de chez vous, il peut subir des attaques, il peut être volé. On a vu même des stars dont les photos ont été volées sur iCloud. Donc, vos photos à vous, ça peut pas intéresser des pirates, quoique, j'en sais rien. Mais en tout cas, les photos de stars, ça se revend très bien. Donc, faire attention.
Conservez tout sur une petite clé USB. Ouais. On y revient. On l'avait oublié.
Et ne pas la perdre. Donc, il faut la chiffrer, du coup. Voilà.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous, Romain Pigenel, expert du numérique, cofondateur de Futur.io, Emmanuel Paquette de L'Express. Merci Zoé Sfez d'avoir été toute cette soirée.